Chapitre 61. Un îlot de béton en plein cœur de l'Amazonie. La ville de Manaus s'étendait au nord-ouest du Brésil, déployant ses métastases urbaines au plus profond de la jungle. Après plus de 4 heures de vol, Nicky et Sébastien débarquèrent dans le hall d'entrée de l'aéroport. Ils ignorèrent la meute des chauffeurs de taxi illégaux qui abordaient les clients potentiels dans la salle de livraison des bagages et s'adressèrent au guichet des compagnies officielles pour obtenir un coupon de réservation. Il pleuvait. En sortant du terminal, ils furent saisis à la gorge par la chaleur tropicale et moite. L'air était sale et saturé d'humidité. L'eau de pluie se mélangeait à la poussière, aux vapeurs souillées et aux résidus huileux, rendant l'atmosphère irrespirable. Ils remontèrent la file des taxis et présentèrent leur coupon à l'employé de la compagnie, qui les orienta vers une Mercedes 240D. Repeinte en rouge et vert, la voiture à la mode à la fin des années 1970. L'habitacle sentait l'aigre et le renfermé. Une odeur infecte d'œufs pourris, de soufre et de vomi. Ils se hâtèrent de baisser la vitre avant de montrer leur itinéraire au chauffeur. Un jeune métis, aux cheveux raides et aux dents gâtées, vêtu du maillot jaune et vert de la Seleção. À la radio, une macarena sauce brésilienne, insupportable assourdissante. Nicky alluma son téléphone et essaya de joindre la France tandis que Sébastien demandait fermement au chauffeur de baisser le volume de sa musique. Après quelques essais infructueux pour obtenir la ligne, Constance décrocha enfin. Nicky la mit au courant de la situation en quelques mots. « Je suis allé à la pêche aux renseignements et j'ai de mauvaises nouvelles », annonça la jeune flic. « Nous avons très peu de temps », prévint Nicky en branchant le haut-parleur pour permettre à Sébastien de profiter de la conversation. « Alors écoutez-moi attentivement. » J'ai envoyé les photos de Flavia à tout mon carnet d'adresses. Il y a quelques heures, j'ai reçu un appel d'un de mes collègues de l'OCRTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Il a reconnu la jeune femme sur les photos. Elle ne s'appelle pas Flavia. Il s'agit de Sofia Cardoza, aussi connue sous le nom de Barbie Narco. C'est la fille unique de Pablo Cardoza, un puissant baron brésilien de la drogue, le chef du cartel des Seringueiros. Nicky et Sébastien échangèrent un regard affolé. Les Seringueiros, ils avaient déjà entendu ce nom à Rio. Depuis un mois, Pablo Cardoza dort dans une prison fédérale de haute sécurité, poursuivit Constance. Officiellement, le cartel a été démantelé lors d'un gigantesque coup de filet mené par les autorités brésiliennes, mais la fameuse Flavia ambitionne manifestement de reprendre les rênes de l'empire de son père. Son boulot de serveuse sur la plage d'Ipanema n'est qu'une couverture. Elle n'a jamais vécu dans les favelas. Votre périple à travers la Rocinha n'était qu'une mise en scène. Malgré l'odeur, Nicky remonta la fenêtre pour couvrir le bruit de la ville. La chaleur était pesante. L'humidité et la pollution contaminaient tout. Les gratte-ciels sans charme alternaient avec des monuments plus anciens, vestiges du fastueux passé de la ville, lorsque la capitale de l'Amazonie dominait la production mondiale de caoutchouc. Même en pleine nuit, les rues étaient encore animées, grouillantes et bruyantes. « Et l'avion ?» demanda-t-elle. « J'ai montré les photos du DC-3 à mon collègue de l'OCRTIS. Pour lui, il n'y a aucun doute. Le bimoteur appartient au cartel et la cargaison de drogue proviendrait de Bolivie. Probablement entre 400 et 500 kilos de cocaïne pure pour une valeur de 50 millions de dollars. Le cargo a dû avoir une avarie avant de s'écraser au milieu de la jungle il y a 2 ou 3 semaines. Depuis cette date, Flavia et les membres du cartel qui ont réussi à échapper aux arrestations doivent le rechercher activement. « C'est si compliqué de retrouver un avion de cette taille ?» demanda Sébastien. « En Amazonie, oui. Suivant où il s'écrase, il peut être impossible de le repérer. La plupart des endroits sont si reculés qu'il n'y a ni route ni accès, rien. L'avion ne devait pas posséder de balises de détresse. J'ai fait des recherches. L'année dernière, les militaires brésiliens ont mis plus d'un mois pour localiser un Cessna de la Croix-Rouge qui s'était crashé dans la jungle. Et encore, c'est une tribu indienne qui les a mis sur la piste. La Française laissa passer quelques secondes avant de continuer. Mais le plus surprenant, c'est l'identité de l'homme qui a trouvé l'avion. Je ne comprends pas. Les photos du bimoteur ont été prises avec un téléphone portable, expliqua Constance. D'après son attirail de camping, visible sur certains clichés, on pourrait croire à un randonneur tombé sur l'épave par hasard. Je crois au contraire qu'il la cherchait et qu'il a doublé les types du cartel. Je pense également qu'il était seul, car les photos sur lesquelles il figure ont été faites à bout de bras. Comme il portait un t-shirt avec le drapeau américain, J'ai parié qu'il n'était pas brésilien et j'ai consulté à tout hasard les bases de données d'Interpol. Tenez-vous bien. Le type est recherché par la police new-yorkaise depuis 5 ans. Il a quitté Brooklyn après avoir été condamné à une lourde peine de prison. Son nom est Memphis Decker. C'est le frère de Drake Decker, le tenancier du boomerang. Nikki et Sébastien encaissèrent l'information avec stupéfaction. Depuis qu'ils avaient quitté la zone de l'aéroport, le chauffeur poursuivait la même route, l'Avenida Constantino Neri, une espèce de strip locale qui reliait le nord-ouest de Manaus au port en passant par le centre historique. Brusquement, ils quittèrent l'avenue par une bretelle autoroutière pour déboucher sur une enfilade de débarcadères desservie par une route goudronnée. Dominant les eaux noires du Rio Negro, l'immense port de Manaus s'étendait à perte de vue. Le type qui a découvert le DC-3 était le frère de Drake Decker, vous en êtes sûr ? Demanda Sébastien. Certaine, confirma Constance. Il a transféré les photos et la carte sur son iPod avant d'envoyer l'appareil à son frère à New York. Et Drake n'a rien trouvé de mieux que de le conserver dans la mallette de poker que lui a volé Jérémy. Et vous savez où se trouve ce Memphis Decker aujourd'hui ? Demanda Nikki. Oui, au cimetière. Son cadavre a été retrouvé dans le parking de la gare routière de Coari, une petite ville en bordure de l'Amazone. D'après le rapport de police, son corps portait des traces de torture et de mutilation. Les hommes de Flavia ? C'est évident. Sans doute ont-ils essayé de lui extorquer la localisation exacte de l'avion. Le taxi dépassa les premières embarcations. Des bateaux gigantesques sur le pont desquels étaient suspendus des centaines de hamacs multicolores. Puis il traversa la zone dévolue au cargo en partance pour les principales escales du bassin amazonien. Belém, Iquitos, Boa Vista ou Santarém, avant d'arriver devant une immense halle en acier. Sous une charpente métallique monumentale, les étals des commerçants débordaient de poissons, de plantes médicinales, de carcasses de bœufs, de peaux et de fruits tropicaux. L'air était dense et saturé de manioc. Coloré, anarchique, ce ringis amazonien bourdonnait d'animation. Dans la confusion, des dizaines de pêcheurs ravitaillaient les étals, déchargeant des crustacés encore frétillants. Alors que le taxi continuait le long des quais rouillés, Sébastien se frotta les paupières, essayant de reconstituer l'enchaînement des événements. Après avoir tué Memphis, les hommes du cartel avaient envoyé l'un des leurs, sans doute le fameux Maori, pour prendre contact avec Drake Decker. Sous la menace, Drake avait dû avouer s'être fait voler le baladeur par un gamin appelé Jérémy. Mais comme l'avait précisé Simon, Drake ne connaissait ni le nom ni l'adresse de Jérémy. Les seules informations à sa disposition étaient son prénom et sa passion pour les shooters, dont il portait souvent le t-shirt. Et c'est par l'intermédiaire de la page Facebook du groupe de rock que Flavia avait réussi à remonter la piste jusqu'à Jérémy pour le séduire dans l'espoir de le faire venir au Brésil avec l'iPod. Un plan dingue, une machination perverse et machiavélique.
Aqui é cidade à Baía do Lago,
prévint le chauffeur alors que les hangars et les conteneurs laissaient place peu à peu à des habitations sauvages. La cité lacustre était une sorte de favela au bord de l'eau noire. Un bidonville sur pilotis constitué de masures en bois avec des toits en tôle ondulée. Un cloaque de boue grasse et collante dans laquelle la voiture menaçait de s'embourber à tout instant. Je dois raccrocher, Constance, merci pour votre aide.
N'allez pas à ce rendez-vous, Nikki, c'est de la folie. Vous ne savez pas de quoi sont capables ces hommes.
Je n'ai pas le choix, Constance. Ils détiennent mes enfants.
La flic marqua une courte pause avant de prévenir gravement.
Si vous leur donnez les coordonnées de l'emplacement de l'avion, ils vous exécuteront dans la minute, vous et vos enfants, c'est une certitude.
Refusant d'en écouter davantage, Nikki raccrocha. Sans ciller, elle coula un regard vers son ex-mari. Cette fois, ils avaient bien conscience de jouer la dernière manche d'une partie qu'ils ne pouvaient pas gagner. Le chauffeur arrêta la voiture, empocha le prix de la course et s'empressa de faire demi-tour, abandonnant ses passagers au milieu d'un paysage de désolation. Nikki et Sébastien restèrent un long moment seuls, debout, prisonniers de la peur. Dans la nuit noire, le crachin et le brouillard imprégnaient ces terres dévastées pour les transformer en un immense bourbier cerné de broussailles. À 3 heures précises, 2 énormes Hummers débouchèrent dans la nuit et se portèrent à leur niveau. Aveuglés par la lumière des phares, ils s'écartèrent pour éviter d'être écrasés par les monstrueux tout-terrains. Les véhicules s'immobilisèrent, gardant leurs moteurs allumés. les portières s'ouvrirent. Cinglés dans des uniformes de camouflage, harnachés de cartouchières, fusils d'assaut Imbel en bandoulière, trois hommes lourdement armés jaillirent dans la nuit. Des guérilleros reconvertis en narcotrafiquants. Sans ménagement, ils extirpèrent Camille et Jérémy d'un des 4x4 et les tinrent en joue, mains attachées dans le dos, bouche entravée par du Chatterton. En apercevant leurs enfants, Nicky et Sébastien sentirent leur ventre se nouer. Leurs cœurs s'emballèrent. Au bout de l'enfer, ils avaient fini par retrouver Camille et Jérémy. Vivants. Mais pour combien de temps encore? Une jeune femme blonde et mince claqua enfin la portière du Hummer et se posta triomphalement dans la lumière des phares. Sofia Cardoza, alias Barbie Narco. Flavia.